Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, les films de la Gorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée au cinéma d'auteur avec quelques-unes des dernières sorties de nos éditeurs préférés. On va parler tout d'abord de Ghost de Tokyo, un film de Yasujirō Ozu, film de 1932 qui est paru chez Carlotta Film. On reviendra sur un très beau coffret consacré à La Strada, film de 54 de Federico Fellini qui est sorti chez Rimini Éditions. On vous parlera de Le Petit Matin, film de 71, du réalisateur du Cœur Fou, Jean-Gabriel Albicocco. Ça s'est paru aux éditions Montparnasse. On ira chez BQHL, parce que BQHL nous propose trois films d'Alan Rudolph. Welcome to LA, de 1976, Wanda's Café, de 1985, et Les Modernes, de 1988, et toujours chez ce même éditeur. Nous reviendrons sur la sortie en copie remasterisée de L'Échange, de Clint Eastwood. Nous terminerons avec La Passion selon Béatrice, paru chez Carlotta Film, un film de Fabrice Duvels, et enfin Rosso Speranza, de Anna Rita Zambrano, sorti chez Blackout. L'équipe de Culture Prohibée remercie Sandrine Hiver, Lucie Mottier, Jean-Pierre Vasseur et François Villa pour leur aide sur cette émission. Pour causer cinéma d'auteur à mes côtés aujourd'hui dans ce studio, Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimera Tech disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Une autre entité présente dans ce studio, Thomas Roland, dit le loup-garou Picard. Mon cher ami Thomas, bonjour à toi.
Bonjour Jérôme, bonjour Damien et bien évidemment bonjour à toutes.
Mon cher Damien, toi qui es le plus jeune de la bande, c'est logique que l'on se tourne vers toi lorsqu'il s'agit de parler du film d'Ozu, le fameux Ghost de Tokyo, un film de 1932.
Les Ghosts de Tokyo de Yasujirō Ozu est ressorti chez Carlotta, ce qui m'a permis de découvrir le film. Alors, c'est vu que le film s'appelle Les Ghosts de Tokyo, ce qui va nous intéresser, bah, en fait, ce sont les enfants de la famille Yoshi, donc Ryoshi et Keishi, qui se lient d'amitié avec Taro, le fils du patron qui, en fait, emploie leur père. Alors, il y a un truc qui est très cool. Déjà, le film, il est trop bien. je l'ai beaucoup aimé. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a un côté petit Nicolas, en fait, parce qu'on suit finalement la tranche de vie d'enfants qui d'abord ne veulent pas aller à l'école parce qu'ils se sont un peu battus avec les autres enfants qui sont à cette nouvelle école dans laquelle ils ne sont pas encore entrés. Donc ils vont faire l'école buissonnière en essayant de faire des faux devoirs et de montrer qu'ils ont réussi leurs faux devoirs. Il y a des bagarres, il y a des groupes d'amis. C'est trop bien en fait. C'est vraiment une petite version du petit Nicolas, mais derrière la caméra on a Ozu, donc il y a des trucs en plus. Ce qui est intéressant, c'est que parmi les trucs qu'on retrouve très facilement chez Ozu, c'est qu'il a une caméra en fait assez naturaliste sur ce qu'il filme, mais surtout il a une on parle souvent d'une esthétique du vide, c'est la façon dont il arrive à mettre des personnages ou des objets dans un plan et de laisser tout l'espace à l'autre. Et le fait d'être dans la banlieue de Tokyo, surtout dans les années 30, en fait on va pas avoir les banlieues tel qu'on se l'imagine aujourd'hui, c'est-à-dire avec plein de maisons aux alentours ou des immeubles, ça va vraiment être quelques habitations et la campagne. C'est essentiellement la campagne. La chose qui circule le plus dans le film, c'est pas les voitures, c'est un train qui souvent va faire un aller-retour à travers l'image. Et ça, c'est quelque chose qui est parfait parce que ça ressort sur la façon dont le film se découle, parce que c'est un film qui prend son temps pour raconter ses personnages. Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est l'effet miroir qu'il y a entre le monde des enfants et le monde des adultes. C'est-à-dire que les enfants, bah, ils vont surtout se taper au début, ils vont se battre entre eux et en fait, ils vont se forger dans l'adversité. Et en fait, cet affrontement va au fur et à mesure forger leur amitié. Mais pour chacun des enfants, il y a une figure absolue, c'est la figure du père. Et chacun, en fait, idéalise son père à sa façon. C'est le cas de nos deux enfants, de nos deux héros principaux, Ryuichi et Keiji, qui pour eux leur père est incroyable. Dès qu'il dit un truc, automatiquement c'est un dogme et il explique qu'il faut devenir ami, donc ils vont essayer de devenir ami même s'ils n'en ont pas envie et qu'ils se font taper par les autres, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que leur père, en fait, bah, c'est juste un employé comme un autre, c'est pas un grand patron, c'est un peu le sous-fif du patron. Et ça, ils vont se rendre compte dans une scène qui est très belle, où en fait ils vont être invités par le fils du patron à venir voir un film parce que son père voyage, filme des trucs et décide de les diffuser. Et parmi les invités, il y a aussi leur père qui est présent. Et sur les bobines, le seul dont on se moque, c'est leur père qui est là, en fait, juste pour faire le clown. Et ça, c'est quelque chose qui va les marquer, qui arrive vers la fin du film et qui les met en opposition par rapport à leur père. Donc c'est un truc, quelque chose qui est très très beau. Et il y a un dernier truc qui j'ai trouvé très intéressant, c'est que on connaît souvent les enfants stars, mais ceux qu'on connaît, c'est surtout ceux américains et ceux en Europe, mais c'est avec une vision très moderne. Alors que là, l'un des acteurs qui joue l'enfant principal, donc j'arrête pas de dire le nom et dont j'arrête sans doute pas de l'écorcher, c'est Ryoichi. Et lui, il est joué par Tomio Aki, qui est un jeune garçon en fait, qui a joué dans plein de productions où il avait ce rôle de jeune garçon. Donc c'est les débuts d'une star qui va avoir une vie très très courte, mais c'est un Ozu, comme je vous l'ai dit, que je trouvais très beau. Alors vous m'avez entendu faire beaucoup de comparatifs avec des choses qui sont européennes, mais vraiment quand je l'ai découvert, j'ai vraiment eu une sorte de doigt qui a touché mon cerveau et qui m'a rappelé le petit Nicolas, et j'ai vraiment eu cet effet. Si le petit Nicolas se passait au Japon, ça ressemblerait à ça. Donc ça, c'était Les Gosses de Tokyo de Ozu, disponible chez Carlotta Film.
Vous écoutez Culture Prohibée.
ビルの屋根潜りたくなるマンホール
Je vais changer d'éditeur pour aller vers vraiment un classique là, de l'histoire du cinéma. La Strada de Fellini, qui est ressorti là, de Federico Fellini, un film de 54, qui est ressorti chez Rimini Éditions dans le Master 4K qui avait été travaillé par la collection Criterion et The Film Foundation, et ce qui fait qu'on a une édition 4K UHD qui est vraiment magnifique et qui est bourré de bonus. On va revenir là-dessus parce qu'il y a un bonus particulièrement intéressant. Alors, bon, La Strada, on connaît tous cette histoire de La Strada, c'est-à-dire que Giulietto Masina, c'est une jeune femme, une pauvre femme, il y a une famille pauvre, et elle est vendue, en fait. Elle est littéralement vendue pour 10 000 lire, ce qui est une somme absolument ridicule, à des forains et en particulier à Zampano, qui est une sorte de Monsieur Muscle, une sorte d'Hercule qui sévit dans les foires, qui est joué par Anthony Quinn. Cette jeune femme, elle est jouée par Giulietta Masina, qui est la femme de Fellini. Et puis, ils vont donc voyager. Le voyage, c'est la strada, hein, la route. En italien, et vont donc voyager comme ça en Italie. Ils vont donner des spectacles, et donc on va voyager avec cette troupe. Et puis un jour, il va y avoir cette rencontre avec un type un peu dingue, un peu poète, qui est interprété par Richard Basehart, et qui est le fou en fait, et qui va un peu changer la donne, quoi. Voilà. Alors le film a fêté son 70e anniversaire en 2024 quand même, donc c'est pas un film qui date d'hier, hein, voilà, mais le film reste particulièrement passionnant aujourd'hui. Alors, il suffit d'écouter, hein, dans les bonus, les entretiens avec Frédéric Mercier et Marco Suzal. Et pour se rendre compte de la grande pertinence du travail de Fellini. Le film est aussi très intéressant parce que, bon, évidemment, il met en scène le milieu du spectacle, ce qu'il n'avait pas encore tant mis en scène que ça. Peut-être si dans son film sur les romans en photo, le chèque blanc qui était un film où Alberto Sordi faisait ce chèque blanc qui était un peu un héros de pacotille en fait, et puis il y a une femme qui était amoureuse de lui qui devait se marier, puis qui devait rencontrer le pape d'ailleurs dans le film, et puis qui se met à tomber amoureuse de ce gars-là et tout ça. Ça donne une comédie assez drôle. Et à l'époque, Fellini fait des films, on est plutôt dans une sorte de veine néo-réaliste, il se cherche encore. Et ce film-là, La Strada, c'est donc un des premiers qui traite de l'univers du spectacle, des planches. Après, il traitera du spectacle musical, il traitera de l'univers de l'univers des planches encore, il traitera de la télé aussi, avec Ginger et Fred, un de ses plus beaux films très mélancoliques. Et là, c'est un des premiers films qui est sur le sujet, et c'est un film où il fait la bascule. Il passe, c'est le début en fait. On est encore dans quelque chose de néo-réaliste. Et puis avec ce personnage de fou, avec certaines scènes, la manière dont est filmé le public aussi, qui est très particulière, on est presque dans quelque chose d'onirique. Et on commence à arriver sur le Fellini qui va petit à petit s'imposer. Il y a un vrai point de vue politique, hein, dans ce film, qui est le film d'un saltimbanque qui aime les saltimbanques. Hein. Fellini aime les saltimbanques. Et... le propos politique et poétique aussi, une sorte de surréalisme poétique, parce que on a, c'est la, va être la victoire en fait de ceux qui aiment la magie, le spectacle, sur l'effroi, les calculateurs, qui sont personnifiés par le personnage de Zampano, qui en fait est un type assez cynique. Il n'a pas cet amour du spectacle qu'ont les autres, et il y a une confrontation. Pascal, elle va jouer du tambour pour Zampano pendant qu'il porte des trucs très lourds, tout ça, enfin bref. Et c'est avec ce film, que Fellini sort du vérisme. Alors, c'est donc un grand classique, hein, de Fellini, comme beaucoup de ses films, hein, quand même, qui sont devenus aujourd'hui, qui sont des grands classiques. Et dans les bonus, alors, il y a plusieurs bonus, mais il y a un bonus qui a particulièrement retenu mon attention, parce que c'est pas un bonus, en fait, c'est plus qu'un bonus, c'est un film. C'est un film qui s'appelle Fellini, je suis un grand monteur, qui est un documentaire franco-italien-écossais réalisé par Damian Pettigrew, qui est sorti en 2002. Alors, je vous lis le synopsis, ça va vous faire envie, parce que je le trouve plutôt bien rédigé. Une caméra traverse une plage large et lumineuse, apparemment en plein hiver. Aucun baigneur n'est en vue. Seulement une parade défilante de cabines vides, avec un paysage marin bleu et calme au loin. La musique mélancolique de Nino Rota donne à ces panoramas une familiarité onirique. Nous passons ensuite de la couleur au noir et blanc, et un bref aperçu de 8,5, le chef-d'œuvre de Fellini de 1963, dans lequel une prostituée, la Saragina, se prépare à jouer sa rumba sur la plage pour un groupe d'écoliers en fuite. C'est la même plage sur laquelle nous venions de fixer notre regard, mais dépouillée de 40 ans de développement successif et rendue mythique à travers les yeux du maestro. Et à partir de là, en fait, le réalisateur, Pettigrew, il va mélanger images d'archives, des interviews de Fellini, mais des nouvelles interviews aussi avec les collaborateurs de Fellini, des extraits de films. Il va aussi aller sur des lieux de tournage à différentes époques. Et le film, en fait, présente presque une Italie qui est un peu hantée par Fellini. C'est assez particulier. Et il y a des intervenants qui sont assez extraordinaires. On va retrouver Roberto Benigni, Dante Ferretti, je ne vous les cite pas tous, hein. Donald Sutherland, Terence Stamp, Giuseppe Rotuno, voilà, grand directeur de la photo. Donc il y a tout ce monde-là. Et en fait, ce qui fait dire, en fait, on croyait, c'est ça qui est incroyable avec Fellini, on croit toujours savoir plein de choses sur Fellini. Et puis plus on l'entend parler, plus on entend ses collaborateurs parler, plus on voit de films sur lui, plus en fait il est insaisissable. En fait, on apprend toujours des choses en regardant les films de Fellini, en les re-regardant, parce que c'est des films qui se revoient, avec un grand plaisir. Et puis, on découvre aussi ses contradictions dans ce film, hein, quelques-unes de ses contradictions. Mais c'est surtout un film captivant, presque qu'un petit côté féerique, aussi un côté mélancolique, hein, mais c'est une belle réussite. Donc, et ce film-là, il est en bonus, hein, de l'édition de la Strada, qui est donc sorti chez Rimini Éditions et qu'on vous conseille vivement. Écoutez Culture Prohibée, spécial cinéma d'auteur. On va quitter Rimini Éditions pour aller vers les éditions Montparnasse pour parler d'un réalisateur qui jouait quand même d'une aura de culte, hein, Jean-Gabriel Albicocco, pour le film Le Petit Matin, film de 71, sur un sujet quand même assez complexe. Voilà, puisqu'on adapte le roman de Christine de Rivoire, qui est un roman au contenu quand même clivant, on va dire. Voilà, pour le dire poliment.
Je suis encore mitigé par le visionnage du film. J'ai un peu du mal à poser mes pensées dessus. Alors, Le Petit Matin, c'est un film qui raconte l'histoire de Nina, qui est jouée par Catherine Jourdan, qui vit avec sa famille dans les Landes. C'est une famille qui est bien aise de ses possessions. Elle a un petit manoir, elle a des chevaux. Elle a même son cousin Jean, qui est couvé par sa mère Eva, qui est jouée par Madeleine Robinson. Et on n'est pas sûr que les sentiments de Jean soient réciproques pour Nina, mais surtout, en fait, il y a la guerre qui va éclater et Jean va essayer de partir pour Londres. Alors, à ce moment-là, Nina va s'interroger, en fait, sur ses émotions. Est-ce qu'elle aime vraiment Jean ou est-ce qu'elle n'a pas trouvé un meilleur parti? Alors déjà, tous les acteurs, ils sont flamboyants. La mère, elle est incroyable. Mère très antisémite. C'est quelque chose qui marque assez vite dans le film. Jean, il est intéressant parce qu'il est très tactile, complice et intime avec un de ses amis, mais pas du tout avec Nina. Et Nina, elle est têtue, elle est assez brute dans les décisions qu'elle prend. Elle essaye toujours de s'imposer. Et ce qui est aussi intéressant, c'est Paul, son père, qui est quelqu'un qui se bat pour l'amour, qu'importe le chemin qu'il prend, mais aussi quelque chose d'autre. Alors, il pousse sa fille à suivre son amour, mais le dernier personnage qui va être important, c'est le personnage de Karl, qui joue le séduisant envahisseur. Et si vous vous demandez de quelle guerre je parle depuis tout à l'heure, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Alors, parmi les choses qui sont très très belles dans le film, il y a cette lumière... quasiment constamment présente, elle a quelque chose. Le film baigne littéralement très souvent dans cette lumière qui est bien mise en avant par les angles de caméra qui lui donne toujours un bel aspect, essaye de vraiment faire baigner tout le monde dans la lumière. Ça, c'est quelque chose, surtout au début du film, qui finalement montre la fin des années folles, même si ça c'était déjà terminé un peu avant, mais montre en fait cette ambiance où tout le monde s'amuse. Certes, il y a un petit écho de Hitler qui monte en Allemagne, mais tout le monde est dans l'amusement, sauf Eva, qui est antisémite et qui veut rappeler à quel point le fait que la tante de Nina épouse quelqu'un qu'elle considère comme pas quelqu'un de bien. Mère qui a un problème, c'est intéressant parce que la mère est extrêmement catholique et le film dès le départ fait un lien très succinct mais extrêmement rapide avec l'antisémitisme et un certain catholicisme extrême. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a affaire à une petite bourgeoisie qui d'un coup va se retrouver impliquée dans cette guerre, et les nazis, quand ils vont arriver, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre leur domaine. Alors Jean, il va essayer de prendre la fuite et Nina va se retrouver pas toute seule dans cette maison, parce qu'il y a toujours son père et sa belle-mère, mais elle va se retrouver délaissée de Jean qui n'arrête pas de la repousser, qui est assez violent avec elle. Et parmi les personnes qui s'installent dans sa maison, il y a ces séduisants envahisseurs dont je parlais, Karl, avec lequel elle va commencer à développer une relation. Et la raison pour laquelle c'est un film sulfureux et que j'ai dit qu'à la fin j'étais très mitigé, c'est que en fait, au final, ce qui en ressort, c'est la mise en avant de cette histoire d'amour de Nina qui découvre l'amour dans les bras de l'envahisseur, là où Jean, c'est jamais dit, mais il est très proche de son ami, qui est un homme, ils passent beaucoup de temps ensemble, ils sont vraiment très complices. On peut faire des sous-entendus, mais Nina découvre l'amour, et en fait, on se retrouve avec un film qui a une morale assez grise, parce que le seul moment où il va parler des nazis, il va pas en parler en les décrivant négativement, en fait. Il va juste faire de Karl un homme qui tombe amoureux de Nina qui est une jeune fille, les deux qui vont vivre cet amour. En fait, le seul moment où on met en avant ce côté cruel, c'est un moment où il y a quelqu'un qui fuit, il la bat dans le dos. Un autre moment, il commence à réquisitionner les biens, mais le fait de réquisitionner les biens, c'est pas tellement mis en avant dans le sens où ce qui est quelque chose de mal, parce que les seuls gens qui sont blessés par ça, c'est Nina et sa famille, et ça a été un peu des gros bourgeois. Mais le seul vrai moment négatif, c'est le moment où on montre un plan de Ed qui commence à avoir des amours qui se développent pour Karl, et le plan suivant, c'est sa tante dans un wagon en train d'être emmenée parce qu'elle est en train de se faire déporter. Donc c'est un film qui, en fait, met un peu en avant ce que disait le père, parce que le père met en avant le fait que l'amour doit un peu primer sur tout, même si ça pousse à faire des folies. Sachant que la séduction entre Karl et Nina, elle est très bizarre au début, légèrement réciproque, assez cliché, mais ça se voit que c'est un film qui a marqué, parce qu'au moment de sa sortie, il était interdit au moins de 18 ans, donc ça montrait que les gens, ils étaient vraiment contre, parce qu'à l'intérieur du film, il n'y a pas de grandes scènes de violence. Il y a des scènes de relations, mais elles sont visibles, mais c'est pas non plus un film qui va mettre des gros plans sur des choses qui pourrait faire interdit en moins de 18 ans. Mais il y a une dernière chose qui m'a fait rire, c'est qu'il a été sélectionné à la Mostra de Venise en 1971. J'ai pas trop suivi l'affaire, mais je sais que cette année-là, ils ont remis aucun prix. Mais l'autre truc que je sais, c'est qu'il s'est retrouvé lors de ses sélections avec les Diables de Ken Russell, qui lui aussi était tout aussi sulfureux. Alors, je suis encore en train de réfléchir à ce que je pense du film Le Petit Matin de Jean-Gabriel Albicoco. J'ai passé un... Alors, je sais pas si je peux dire que j'ai passé un bon moment. C'est un film qui est très beau, que j'ai trouvé très intéressant, mais à la fin, j'ai juste envie de dire, je sais pas.
Alors ça, c'est un final incroyable, Damien. Non, mais c'est, je pense que c'est un film qui est dans la nuance. Alors c'est un film qui est précédé aussi d'une réputation aussi, parce qu'il est tout simplement adapté d'un roman qui a eu le grand prix du roman de l'Académie française. Hein. C'est le même titre, hein, Le Petit Matin, c'est signé Christine de Rivoire. D'ailleurs, dans les bonus, la plupart des bonus tournent autour de Christine de Rivoire, que ce soit les entretiens avec Sylvaine Nicolai, une amie de Christine de Rivoire, une vice-présidente de l'Association des Amis de Christine de Rivoire, Frédéric Magé, président de l'Association des Amis de Christine de Rivoire, voilà, donc Pierre Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française qui vient se balader aussi pour donner son avis, mais effectivement c'est un film particulier, singulier, petit à petit, en ce moment, on voit que les éditeurs se penchent un peu sur le travail de Jean-Gabriel Albicoco. Donc peut-être qu'il va avoir droit à toute une salve de films. En tout cas, c'est bien de soutenir les éditions Montparnasse dans leur édition de ce film, Le Petit Matin.
Came to Sloan Square from that wet December night. Spoken with the coast, had a ticket for a flight. I left you with your beauty, and I left you with your sight. I was a thousand miles beyond you in the coming.
Vous écoutez Culture Prohibée.
Of life.
On va quitter les éditions Montparnasse pour BQHL, pour quatre films, là, en premier, d'ailleurs trois films du même réalisateur. BQHL qui a décidé de mettre en avant, dans des superbes copies, hein, le travail d'Alan Rudolph. Alors Alan Rudolph, c'est un réalisateur qui est connu pour quelques films. D'ailleurs, parfois aussi, il avait même fait un film, je me rappelle, c'est un réalisateur assez protéiforme, hein, parce que pour manger, il a fait des choses aussi un peu plus commerciales. Et moi, je me rappelle de son Endangered Species, qui est un film de SF avec extraterrestre, abduction et vache malade. Tout mélangé, c'est plutôt pas mal. Ça m'avait bien plu à l'époque. Bon, ça date d'il y a de nombreuses années. Et là, on va plutôt aller sur sa veine autorisante, parce qu'il mettait un peu de côté, hein, ses films alimentaires lui-même, quand il en parlait, Alan Rudolph. Alan Rudolph, c'est un intellectuel américain qui a souvent été, c'est l'assistant de Robert Altman. Il a souvent été mis un peu de côté. On a souvent dit, ouais, bon, c'est l'assistant de Robert Altman. On sait pourquoi il fait du cinéma. C'est le sous Robert Altman et tout. Parce qu'ils ont une façon de faire des films qui sont un peu des films chorales, tout ça. Mais moi, je trouve qu'il y a une patte différente chez Alan Rudolph. Il y a une patte européenne, quelque part, qu'il différencie d'Altman.
Esthétiquement, c'est complètement différent.
Ouais, je suis d'accord. Ouais, moi, je trouve que c'est plus beau, d'ailleurs, Rudolph, esthétiquement. C'est plus travaillé. Alors, après, on peut trouver ça parfois. Certains trouvent ça plus vain. Hein, chacun son avis, mais quoi qu'il en soit, c'est un auteur intéressant. C'est important de le mettre en avant. Alors là, c'est rigolo, parce qu'en plus, dans les trois films là, donc Welcome to LA, Wanda's Café et Les Modernes, il y a à chaque fois des bonus avec Hélène Méric, la journaliste Hélène Méric, qui elle, je pense, adore Alan Rudolph. Enfin, elle est super fan, elle le dit plusieurs fois, elle en parle énormément et elle en parle très bien d'ailleurs dans ses bonus.
À l'époque de Starfix, Alan Rudolph était un de leurs chouchous. Hein.
Oui, c'est vrai, ben, on le sent. Hein, Hélène Méric, qui c'est vrai, était à Starfix, adore particulièrement Alan Rudolph. Mais il n'y a pas que ça aussi, hein. il y a d'autres. Il y a l'interview d'Alan Rudolph qui est assez sympa. Et bon, moi, ma petite préférence dans les trois films, c'est l'interview de Charlie Couture. Parce que oui, c'est Charlie Couture qui a fait la musique du film Les Modernes, et il joue dedans d'ailleurs. D'ailleurs, bon, il raconte un truc rigolo. Il dit, je sais pas, parce que ça se passe en partie en France, Les Modernes, mais je sais pas tourner en France, moi ça se passe
passe en partie en France, pour que ce soit réaliste, il avait demandé à des gens qui parlent le français, quoi, voilà, d'être présents. Et lui, il joue dedans, il a un piano bar, hein, et puis lui donnait pas d'indication. Alan Rudolph aurait dit, je vais voir Alan, avec qui j'avais fait la BO et tout, mais je vais lui demander, je lui dis, écoute, Alan, moi, tu me dis pas si c'est bien, si c'est pas bien. Et Rudolph lui fait, bah, je t'ai choisi, il fait oui. Bah donc, c'est que je savais ce que tu allais faire. Ah bon ? Bah oui, donc, puis là, ça se passe bien. Pourquoi j'irais te dire quelque chose ? Ah bon, d'accord, ok. Bon. Et en gros, c'est la méthode Rudolph. C'est-à-dire que je prends tel acteur parce que je sais que tel acteur, c'est celui qu'il faut pour mon rôle. Alors, les trois films sont très différents, mais dans ces trois films, il y a un film qui est vraiment un film culte, dont je laisserai Thomas vous en parler. Je vais vous parler des deux autres. Moi, Welcome to LA, qui est un film de 76, qui est un film où, en fait, dedans... on a Keith Carradine, qui est son acteur fétiche, hein, qui est son alter ego un petit peu, et qui fait un... Alors, je vous laisse découvrir, parce que c'est inspiré en partie d'une histoire vraie, comment dire, d'un compositeur américain, Richard Baskin, qui fait la musique d'ailleurs de ce film. Hein, Richard Baskin, qui un jour a découvert qu'on jouait sa musique alors qu'elle n'avait pas été retenue. Enfin bon, bref, qui s'était fait usurper en fait sa musique. Voilà. Donc, et c'est un peu le sentiment de Rudolph à l'époque. Donc il fait un parallèle entre le destin de son destin de metteur en scène et le destin de ce musicien. Alors c'est expliqué, hein, dans les bonus. Et c'est Keith Carradine là, qui fait ce musicien, qui est donc l'équivalent de Rudolph, sauf que là c'est un musicien. Et lui, et en fait. Keith Carradine, il est depuis 3 ans, il était à Londres, il revient aux États-Unis et parce que son père est un grand industriel et il voudrait qu'il lui succède en fait, mais lui, c'est un coureur de jupons invétéré, il n'est pas capable de se fixer, il s'intéresse pas vraiment en fait à cette idée de récupérer la grande entreprise familiale. Et on va suivre comme ça son parcours, où il va croiser des personnages très particuliers. Entre autres, il a un moment, on lui adjoint une Linda Murray, qui est en fait jouée par Sissy Spacek, qui lui fait le ménage, tout ça, qui fait le ménage topless. Voilà, c'est comme ça, c'est étrange. Et on a plein de personnages. Il y a le personnage de Géraldine Chaplin aussi qui est assez étrange aussi. Et qui, à un moment, elle apparaît nue dans le film. Il y a une anecdote très marrante d'ailleurs, parce que pour ne pas gêner son père, Charlie Chaplin, en fait, ils avaient pris la tête de Géraldine Chaplin, ils l'avaient positionnée numériquement sur le corps d'un mannequin. Une fille qui posait pour Penthouse, en fait. Et Alan Rudolph, il avait peur de perdre l'argent du producteur, enfin de Lionsgate Film, et de tomber en disgrâce par rapport à cette scène, si elle déplaisait à Charlie Chaplin, qui était très influent encore. Et donc, c'était cette anecdote assez étrange où ils ont fait un montage pour cette scène. Bon, c'est assez bizarre. Mais sinon, le film, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est comme un peu tous les films d'Alan Rudolph, en fait. On a des personnages qui se croisent. Ça évoque énormément le cinéma européen. C'est à la fois comique, dramatique... je pense que ce terme de mosaïque convient bien pour décrire un film en fait d'Alan Rudolph. Et là, on a, ce serait un peu comme une succession de liaisons ratées en fait. Voilà, parce que bon, il a beau être un coureur de jupons, c'est plutôt une succession de liaisons ratées. Et ça évoque effectivement, on doute bien qu'il a vu La Ronde de Max Ophuls. Et on est vraiment sur quelque chose de similaire avec ce personnage joué par Carradine, qui a laissé un peu des traces partout dans la ville de Los Angeles, comme ça, comme une sorte de substrat mélancolique. C'est assez étrange. Et bon, il y a... Ça c'est une belle idée, hein. C'est d'ailleurs une très belle idée. Et le film peut avoir effectivement un peu servi d'inspiration au Magnolia de Paul Thomas Anderson ou à Shortcuts d'Altman. Mais c'est un drôle de film qui capture bien l'ambiance de son époque, les années 70. Un film qui est étrangement sexy. Géraldine Chaplin, je fais un peu sa Greta Garbo. Le tempo du film est plutôt languissant. Alors c'est vraiment des films particuliers. Et l'autre, Les Modernes, là, c'est pareil, qui beaucoup plus tard, il est de 88, celui-là. Et un peu dans le même état d'esprit, on est à Paris, c'est les années folles. Dans les cafés, il y a des expatriés américains qui se cherchent eux-mêmes, qui se retrouvent entre eux. Et il y a le peintre Nick Hart. Évidemment, c'est Carradine. Hein. C'est toujours l'artiste. L'artiste maudit, c'est toujours l'alter ego d'Alan Rudolph. Qui là en pince pour une toute jeune Linda Fiorentino, bah, qui n'en pincerait pas pour Linda Fiorentino. Il a une galeriste qui lui commande des copies parce que c'est un formidable copiste. Alors, il vit que de ça en fait. C'est un artiste, mais il est capable de faire que des copies. Il a du talent, mais pas pour produire une œuvre personnelle. Donc il fait des copies de Cézanne, de Matisse, de Modigliani. Il retrouve donc son ex-femme, mais qui est mariée à un collectionneur d'art. Et en fait, encore une fois, c'est un film un peu aigre-doux, comme ça, dans un univers un peu hors du temps. Bien qu'ensuite, en plus, il essaye de mettre en scène cet univers presque de façon vériste, mais en fait, on voit que c'est complètement fantasmé. On est complètement dans une vision artistique, entrecoupée de scènes, un peu érotiques comme ça, gentiment érotiques. La caméra bouge tout le temps, c'est très beau, c'est très élégant. Et en même temps, c'est un peu décousu, il faut bien dire les choses. Et on suit ça pour le plaisir des... En fait, il y a quelque chose... En fait, c'est Alan Rudolph. C'est plein de défauts, mais c'est magique. Il y a un côté magique dans son cinéma qui est assez étonnant. C'est-à-dire que peut-être qu'avec d'autres metteurs en scène, avec les mêmes défauts, on aurait lâché les films. En fait, on aurait dit, ah non, mais en fin de compte, bon, bah, c'est bien sympathique, mais je m'ennuie. Mais chez lui, en fait, l'ennui fait partie du processus un peu du contrat tacite que tu signes avec Rudolph quand tu regardes ses films, parce qu'il y a des moments de grâce absolue dans ses films qui sont assez, assez étonnants, complètement hors du temps. Et d'ailleurs, Thomas, toi, tu vas nous parler de Wanda's Café, qui est un film de 85, où il y a encore Keith Carradine, il y a surtout aussi Chris Christopherson, et qui est, c'est pareil, un film qui a ce côté magique, mais en même temps qui n'est pas sans défaut, qui est un film pareil, un peu étrange, quoi.
Trouble in mind, I'm blue, but I won't be blue always. The sun will shine in my back door someday. Trouble in mind, that's true. I have almost lost my mind. Life ain't worth living. Sometimes I feel like dying. I'm gonna lay my head on some lonesome railroad line. Let the 219 train.
Vous écoutez Culture Prohibée, spécial cinéma d'auteur.
Leave my trouble in mind.
Oui, c'est un film qui se déroule, on peut dire, dans une dystopie. Hein. Il y a des mélanges esthétiques. Alors, il y a des mélanges au niveau des décors, on se croira à la Belle Époque, hein. Ou alors dans les années 40. En même temps, quelque chose d'assez futuriste. Mais tout ça, c'est très mélangé. Ça forme une ambiance, une atmosphère assez particulière. On voit des soldats qui ne portent même pas d'uniforme de l'armée des États-Unis. Hein. C'est un uniforme visiblement créé pour le film. Hein. Et donc c'est un univers assez étrange, une ville qui n'existe pas. Si je me souviens bien, elle s'appelle Rain City. Donc c'est une ville qui n'existe pas. Et Chris Christopherson, il joue un policier qui sort de prison parce qu'il avait tué il avait tué un mafieux quelconque, un représentant de la pègre quelconque, parce qu'il avait insulté une de ses amies ou quelque chose comme ça, quoi. Et donc, il retourne à sa sortie de prison, ce personnage incarné par Kris Kristofferson, cet ancien flic, retourne dans le café de Vanda. Hein, donc qui est le titre du film, qui est tenu par Geneviève Bujold. Hein. Et il va croiser un couple qui est incarné par Keith Carradine et une jeune femme blonde.
Laurie Singer,
hein, vraie fausse sosie d'Ari Lana, mais en plus gracieuse, je trouve. Hein. Et lui, il va tomber amoureux de cette jeune femme, alors que Keith Carradine, le personnage incarné par Keith Carradine, lui va s'égarer, il va s'encanailler avec un petit voyou ils vont faire ensemble des bêtises, voire même se frotter aux gens qu'il ne faut pas. Moi, je trouve que... Alors, le film, il y a plusieurs genres. Il y a le genre policier, il y a le genre mélodrame. Donc, il mène un peu tout ça. Moi, je trouve que ça a un petit peu vieilli, quand même. Notamment, ce que je reproche au film, c'est cette image de l'homme incarné par Kris Kristofferson et puis la blonde plus ou moins en détresse. Ça, c'est quand même un peu vieillot, je trouve, hein, dans la façon de caractériser ces personnages et la relation qu'ils peuvent avoir. Surtout à la fin, il y a quelque chose qui rejoint un peu une imagerie de western dans les dernières images, mais je trouve que c'est un romantisme qui est un peu vieillot. Et après, l'univers de Rudolph aussi, il se caractérise aussi par le fait qu'il y a beaucoup d'ironie. Alors, j'ai pas vu les autres films, malheureusement. J'ai vu d'autres films de Rudolph plus anciens et beaucoup plus bis. Et là, il y a beaucoup d'ironie, notamment dans une scène de fin où il se moque un peu, il moque beaucoup de la pègre, dans une scène de fusillade complètement nonsensique, avec toujours ce mélange d'avant-gardisme au niveau esthétique, de vieilles décos. C'est un film assez étrange, et donc je pense qu'il va dans la continuité des deux autres films que tu as cités, Jérôme, précédemment.
Petit truc quand même, bon, parce que le titre normalement original, c'est Trouble in Mind, et c'est c'est une chanson de Marianne Faithfull qui est magnifique, hein, qu'on retrouve dans le film. Et puis, bon, il y a quand même... une des attractions du film, c'est de voir Divine, le fameux Divine, le travesti préféré de John Waters, en chef mafieux, très viril. Bien sûr,
il est un peu efféminé quand même.
Bien sûr, c'est Divine. Non, mais c'est rigolo parce qu'il lui fait interpréter un archétype d'un personnage viril, une sorte de clone d'Al Capone. Mais c'est Divine, quoi. Voilà, c'est.
il est très maniéré, ce chef de la pègre.
Ah, mais voilà, enfin, c'est des films uniques, hein. C'est quand même des films avec une atmosphère unique. Autre film sorti chez BQHL, Thomas, dont tu veux nous parler. Film d'un auteur qu'on aime beaucoup, d'ailleurs, dont le dernier film, moi, m'avait beaucoup plu, hein, Juré numéro 2, n'en déplaise à certains pisse-froid, que je trouvais en plus bien mis en scène. Je vais bien sûr parler de Clint Eastwood et de L'Échange, un film de 2008. Qui est quand même un film, c'est avec Angelina Jolie, hein, qui est basé quand même sur une histoire assez dingue qui s'est passée en 1928. C'est-à-dire qu'une mère célibataire a laissé son fils rentrer seul au domicile. Il disparaît. Et puis la police va dire, vous avez retrouvé votre gamin, mais c'est pas le gamin, quoi. Et c'est quand même un drôle de truc. C'est une histoire vraie, quoi.
C'est une histoire vraie, c'est une histoire très, vachement sordide, parce qu'à partir de ce postulat-là, le film, il va ailleurs. Au fur et à mesure que le film fait plus de deux heures, donc le film, il développe encore des sous-intrigues. Il parle de beaucoup de choses. Hein. Clint Eastwood parle de beaucoup de choses. Pour moi, Clint Eastwood, c'est un peu un héritier de John Ford, parce qu'il interroge l'histoire américaine et ses institutions. Et là, c'est évident dans L'Échange. Hein. Donc, il remet en cause l'histoire américaine ce quoi elle est basée, et aussi la police, l'institution psychiatrique, etc. Tout ça, c'est bien remis en cause dans ce film-là, parce que cet enlèvement, finalement, va mettre au jour une histoire encore beaucoup plus sordide que ça. C'est-à-dire que le film s'inspire donc de l'histoire vraie de Christine Collins, qui voit son enfant disparaître le 10 mars 1928. Elle l'a cherché toute sa vie. Hein. Elle a cherché toute sa vie. Elle est morte en 64 sans avoir jamais retrouvé son enfant. Mais ce qu'on met au jour, ce que ce scénario à tiroir met au jour, déjà, c'est la corruption de l'institution police, hein, parce que c'est un coup des policiers de substituer le véritable gamin à un autre et de lui faire croire qu'ils ont fait leur travail convenablement, qu'ils ont retrouvé l'enfant, et puis ils se font mousser auprès de la presse, auprès de la population, etc. Donc il met bien ça en évidence. Mais ensuite, il y a cette histoire des massacres du poulailler de Wineville, qui est une histoire vraie, donc, qui s'est déroulée entre 1926 et 1928, qui était donc le meurtrier. C'était un tueur en série et pédophile qui s'appelait Gordon Northcott. Bon, dans la réalité, il faisait ça avec sa mère et puis son neveu. Dans le film, sa mère n'est plus là. Visiblement, elle a été peut-être au fil des réécritures écartée. Donc, on garde le neveu qui est un peu une victime qui, malgré elle, participe au massacre des enfants. Et donc, ça met au jour ce trafic, ce massacre sordide où cet homme violé et tué des enfants quoi, de moins de 10 ans. Et à partir de là, Clint Eastwood, il va dresser un portrait des différentes institutions, dont l'institution psychiatrique, parce que cette femme, Christine Collins, il faut la faire taire. Donc, finalement... la police l'a fait interner et là on a une description de l'institution psychiatrique qui va pas forcément qui ne donne pas forcément sous le meilleur jour. C'est un grand Clint Eastwood avec une Angelina Jolie qui, à mon avis, incarne là son meilleur rôle. Je pense qu'elle incarne son meilleur rôle dans ce film là et qui c'est un film qui n'apporte pas forcément de réponse. Enfin, souvent, comme chez Clint Eastwood, les frontières sont poreuses. Il y a toujours un peu d'ambiguïté, mais c'est toujours fait avec classicisme. Moi, je trouve que la mise en scène de Clint Eastwood est très classieuse. Elle bénéficie aussi de cette photographie de Tom Stern qui joue beaucoup sur les contre-jours, sur les clairs-obscurs. Donc, c'est un film à redécouvrir de Clint Eastwood ou à découvrir pour ceux qui ne l'ont pas vu.
D'autant plus que c'est un film injustement mal aimé de Clint Eastwood. On ne dira jamais à quel point Clint Eastwood, pour citer un de ses maîtres, est le dernier des géants, en fait, encore en activité. Bon, il ne s'arrête pas de faire du cinéma, tant mieux quand il nous fait des films comme son dernier, La Jurée numéro 2. Bientôt centenaire, on tient le Manuel de Oliveira états-unien. Bravo à Clint, et oui, l'échange, c'est chez BQHL. Vous écoutez Culture Prohibée. Je vais faire un petit saut chez Carlotta, et puis je terminerai par un petit coup de cœur à la fin. Un petit saut chez Carlotta pour vous parler d'un film réalisé par Fabrice Duvels juste avant Mal d'Aurore, son film sur l'affaire du trou qui a bien marché là et qui a rencontré un écho plus consistant de la part de la critique par rapport à ses autres films. Un film qui s'appelle La Passion selon Béatrice. C'est un film où il suit en septembre 2022 Béatrice Dalle en Italie, qui décide de marcher sur les pas de son idole, Pier Paolo Pasolini. Alors ça donne un documentaire un peu particulier dans la forme, avec un noir et blanc très élégant. C'est plutôt classique hein, dans la mise en scène. On a cette quête de Béatrice Dalle à travers laquelle elle suit donc les pas de Pasolini, mais aussi en vérité ces deux autres idoles, Jean Genet, Kurt Cobain. Mais là, elle est vraiment dans l'optique de suivre les pas de Pasolini lui-même. Et ça devient, c'est rigolo parce que cette idée, c'est une quête inversée. En fait, ça pourrait être une muse qui va rechercher un poète plutôt que le poète qui cherche une muse. Donc ça c'est assez étonnant. Et puis surtout, bien évidemment, c'est un portrait de Béatrice Dalle. C'est-à-dire qu'on découvre Béatrice Dalle, on découvre surtout... on découvre à quel point d'ailleurs elle est elle-même intransigeante et puis elle n'est pas achetable, elle n'est pas... Voilà, il n'y a rien qui est négociable avec Béatrice Dalle. Soit elle aime, soit elle n'aime pas, mais on ne joue pas faux cul avec Béatrice Dalle. Et ce qui est intéressant, c'est quand elle est assez touchante, elle parle de son père, c'est une prolo, elle raconte tout ça. Enfin, c'est très intéressant. Ça cadre évidemment avec l'idée aussi qu'on se fait de... forcément, c'est des sujets qu'on évoque parce que il y a Pasolini en ligne de mire aussi, puisque grand cinéaste marxiste devant l'éternel. Et aussi grand incompris, hein, voilà, jusqu'à sa mort terrible. Et puis un personnage dont on parle jamais quand on parle de ce film, qui pourtant est vachement touchant, moi je trouve, c'est l'interprète, c'est le guide qui l'accompagne dans son voyage, qui s'appelle Clément Roussier, qui est un beau personnage. C'est pas un personnage, il est lui-même dans le documentaire. Du coup, c'est très 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 intéressant. Alors je rappelle quand même que c'est pas innocent en fait, parce que Fabrice Duvels lui aussi s'intéresse à Pasolini et il avait lancé un très bon podcast qui d'ailleurs était diffusé par Carlotta, un podcast s'appelait Obsession, et dans le premier épisode il avait parlé de Pasolini et très bien d'ailleurs, et là ce documentaire est un peu particulier. On y croise même Ferrara, mais c'est logique parce qu'il avait réalisé un biopic hein, sur le poète italien. Mais on y croise Ferrara, c'est marrant, le Ferrara qui ne boit plus. Hein, voilà. C'est assez étonnant et c'est un beau portrait d'actrice qui a été marquée à vie, mais qui n'a pas été par la vision de Salo ou les 120 jours de Sodome. Moi, je connais personne, par contre, les gens qui ont revu Salo ou les 120 jours de Sodome. Il y en a un qui lève la main dans le studio, mais c'est un grand malade. Je ne vous dirai pas qui c'est. Voilà. Et je vais terminer, je vais rester en Italie pour un film qui, cette fois-ci, est sorti chez Blackout. C'est un film qui s'appelle Rosso Speranza, c'est un mot inventé, mais enfin l'espoir rouge, voilà, d'Anarita Zambrano. Alors, on est dans les années 90, et le film va nous présenter le parcours de divers adolescents qui sont en fait réunis, ils vivent dans une sorte d'institution pour enfants de riches, qui ont des tares mentales. Alors pour certains, un tare mental, c'est juste de vouloir être homosexuel, par exemple. Donc c'est plutôt un film qui, derrière ces quatre ados qui sont brisés en fait par une société conservatrice dans laquelle il y a encore des relents de fascisme, ça on le voit à travers certains personnages, on a donc ces quatre ados qui vont être personnifiés. Bon, il y a Nazarena qui a tenté de tuer à l'insecticide un évêque qui était ami de sa famille. Alors Nazarena, c'est un peu la DJ de la bande. Hein. D'ailleurs, le film débute pour nous mettre dans l'ambiance tout de suite par une cover de The Cure qui nous met tout de suite et qui nous ramène tout de suite au début des années 90. On a Alfonso qui est considéré comme malade parce qu'il est homosexuel et que sa famille veut pas qu'il soit homosexuel. Alors c'est tous des fils de sénateurs, c'est le fils de médecin du pape, c'est la haute société, c'est la bourgeoisie italienne, c'est des descendants de fascistes. Et puis on a Vittoriano, lui qui est mutique et qui est en même temps une sorte de cannibale. Dès qu'on l'embête un peu, il a une tendance au cannibalisme. Et puis, il y a ce personnage sans doute l'un des plus touchants. Les personnages féminins sont quand même plus touchants que les personnages masculins. Marzia, qui séduit des hommes beaucoup plus âgés qu'elle, très riches. On a l'impression Comment dire que ça gêne pas ces hommes d'abuser d'une jeune fille qui est certainement mineure, quoi. Dans l'histoire, elle a 17 ans, je crois, un truc comme ça, 16 ans. Ça les gêne pas. Elle est anorexique, ça, je veux dire, ça se voit. Et puis, on découvre évidemment qu'elle a été abusée. Enfin, on découvre tous ces parcours dans cette sorte de bourgeoisie italienne, ce milieu aussi fait de tics et de tocs, dans lequel un tigre d'ailleurs a un rôle très important, parce qu'il y a un tigre qui va faire un joli carnage. Parce que le film débute de manière assez étrange. On voit ces jeunes la nuit qui se promènent, des gens qui chassent un tigre, on ne sait pas trop ce que ça va nous raconter, la musique de The Cure, et puis petit à petit tout ça va prendre forme, et bien sûr tout ça va faire sens. Le film se permet même d'aller vers des scènes d'animation pour décrire, parce qu'on découvre le passé petit à petit de chaque personnage. Il y a un personnage qui est mis en scène via l'animation, et ce qu'on découvre, c'est la critique d'une société patriarcale dans laquelle on abuse des jeunes filles, dans laquelle on maltraite les homosexuels, dans laquelle on ne laisse pas de place à la différence, et dans laquelle règne quand même une grande hypocrisie, voilà. Et c'est un portrait très noir de cette Italie berlusconienne, mais en même temps, c'est intéressant parce que c'est fait par les yeux de ces ados qui sont quand même bien barrés, du coup, de par tout ce qu'ils ont subi, de par tout ce qu'ils ont vécu. Donc c'est très intéressant. C'est pas... En plus, dans la forme, c'est intéressant aussi parce qu'il y a une volonté, ça s'appelle pas Rosso Speranza pour rien, de retrouver une esthétique à la Mario Bava, Dario Argento. Du coup, on a vraiment une esthétique très particulière qui sert bien le film. Hein, Lou Labaye débute sur des teintes rouges, là, c'est cette cover de The Cure, là, où on se retrouve, on a le mélange The Cure, Dario Argento, tout de suite, ça en jette, quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, ça en jette. Voilà. Et c'est le deuxième film d'Anarita Zambrano. Alors, on avait bien aimé le premier qui s'appelait Après la guerre et qui traitait du parcours d'un ancien terroriste d'extrême gauche réfugié en France avec sa fille et qui était rattrapé par son passé. Et là, on a en plus esthétiquement une autre proposition. Donc, j'ai vraiment bien aimé ce film qui m'a. C'est pas très gay, mais en tout cas, c'est un film assez envoûtant, assez captivant. Donc, c'est un film qui s'appelle Rosso Speranza. C'est un film signé Anarita Zambrano et c'est disponible chez Blackout. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Poitier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demédie, La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.